Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Quand Fragonard croise Édouard Manet, que peuvent-ils se dire? Et quand la dame à la licorne voit les aurochs peints sur les parois de la grotte de Lascaux, à quoi pense-t-elle? Ici, c'est Lorenzetti qui discute avec Ovid à propos des marbres de l'Acropole alors que se lève le soleil d'Austerlitz. Gaëlle Bourges, danseuse, chorégraphe et folle d'histoire, une histoire qui commence devant des œuvres d'art.
C'est à tort que l'on a prétendu que les anciens n'eurent pas l'idée de former des collections publiques d'objets d'art. Depuis plusieurs années, le goût des tableaux a pris une extension extraordinaire. Autrefois, on n'en mettait que dans les temples et c'était moins encore comme un ornement que comme un hommage aux dieux. Aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit où l'on ne trouve ces produits du pinceau, non plus seulement dans les temples, dans l'intérieur des maisons, de certains édifices publics tels que la Curie Julienne, l'un des lieux d'assemblée du Sénat, mais sur les murailles extérieures, au grand air, au grand jour. Malgré le prix que l'on attache à ces œuvres délicates du pinceau, on ne craint pas de les exposer ainsi à peu près en plein air. La douceur habituelle et surtout la sécheresse du climat suffisent à les préserver d'altérations pendant bien des siècles. De cette manière, tout le monde en jouit, et cette jouissance est de tous les instants.
Daniel Arras sur France Culture en 1977. Daniel Arras, historien de l'art, bonjour. Gaëlle Bourges.
Bonjour.
Vous êtes quel type de visiteuse devant ces œuvres d'art quand vous vous baladez dans un musée?
Quel type de visiteuse? Moi, j'aime bien observer déjà pas seulement les œuvres qui sont potentiellement accrochées, mais aussi le craquement des planchers, comment les gens se positionnent face à l'œuvre, l'ambiance générale en fait. Ça m'a beaucoup marqué ça quand j'ai découvert les musées. Le côté calfeutré, qui est peut-être moins calfeutré aujourd'hui au Louvre qu'il y a 30 ans, mais bon, c'est encore une autre histoire.
C'est une chorégraphie avec beaucoup de danseurs et de danseuses, le Louvre,
voilà,
aujourd'hui.
Voilà, et beaucoup de sticks avec des téléphones portables au bout, beaucoup d'extensions de soie.
C'est sûr, c'est pas du tout la même chose. Je vous demande ça parce que c'est vrai que quand on regarde vos spectacles, l'inspiration vient si souvent de tableaux et d'œuvres d'art. Et je me demandais, mais quand vous êtes dans un musée, n'importe lequel, ça vous titille pas trop le cerveau en vous imaginant quelle œuvre vous allez pouvoir construire autour de ce tableau?
Non, parce que j'ai pas envie de faire des spectacles avec toutes les œuvres que je vois, heureusement, parce que là, j'en serais au 800e spectacle en 2 ans.
Plus, même plus.
Non, c'est plutôt... Tout ne me vient pas comme ça. D'ailleurs, il y a des choses que j'ai vues il y a longtemps qui me reviennent ensuite. La tapisserie de la Dame à la Licorne, par exemple, je l'ai découverte il y a longtemps et j'avais aucune idée à ce moment-là que j'allais faire un spectacle un jour. J'habitais à côté, en fait, dans un studio petit qui était très très chaud l'été et comme vous le savez peut-être, le lieu où la tapisserie est exposée est climatisé et archi climatisé. Donc j'allais là-bas pour l'air frais. Voyez un peu le...
Ah bah oui, mais c'est l'intérêt de la chose. Au musée de Cluny à Paris, vous avez cette dame à la licorne et puis ce spectacle Gaëlle Bourges à Mon seul désir. C'était en 2014. Vous reprenez d'ailleurs ici à Mon seul désir ces mots sur la tapisserie qui, en réalité, est une série de tapisseries.
Oui, il y a 6 tapisseries et celle où est indiquée à Mon seul désir, c'est une des 6 tapisseries. Et c'est plutôt les lettres qui sont au-dessus d'un pavillon dont les panneaux sont ouverts, dans laquelle peut-être la jeune fille va entrer ou d'où elle sort. Et c'est plutôt A, point, Mon seul désir, point. Et c'est plutôt peut-être Antoine Levis, Mon seul désir, et puis peut-être un Y pour la femme que Antoine Levis a épousée. Enfin, c'est peut-être un cadeau de mariage, en fait, la tapisserie. Donc... Il y a la lettre Y qui est cachée, mais qu'on a retrouvée. Donc en fait, c'est pas à Mon seul désir en vrai.
C'est pas seulement à Mon seul désir, c'est avec de l'inspiration autour de cette œuvre qui, en plus, est porteuse de mystère. Hein. La Dame à la Licorne, ça nous conduit dans un univers particulier. Comment vous travaillez, par exemple, si on prend ce cas précis de cette tapisserie au musée de Cluny à Paris, vous la voyez, il y a du rouge partout, il y a plein de choses à voir. Oh, un petit lapin dans un coin. comment vous travaillez à partir de ça?
La première chose que j'essaye de faire, c'est de faire apparaître aussi l'endroit où l'œuvre nous apparaît, nous, comme visiteurs de musée. C'est-à-dire, par exemple, au musée de Cluny, c'est très sombre. Donc déjà, la première chose, c'est que j'imagine que ce sera très sombre sur scène aussi. Et évidemment, moi, je suis pas du tout dans l'idée d'une reconstitution historique et réaliste. Donc, il y a 6 tapisseries, ben, je peux pas, j'ai pas les moyens d'acheter 6 morceaux de velours immenses comme la tapisserie, donc j'en achète qu'un seul. Et je me dis, ben, on fera les 6 dessus.
C'est bien, déjà.
C'est vraiment des choix très pragmatiques. Et donc, on achète un velours rouge inifugé, parce que sur scène, il faut pas que ça prenne feu. Et on va planter, ou piquer plutôt des fleurs en plastique. Que j'achète dans un magasin type Babou, quoi. C'est vraiment c'est pas du tout une reconstitution de l'Opéra de Paris. Hein. Et je fais le pari que dans la pénombre, que des performeuses puissent piquer des fleurs en plastique, enfin couvrir la tenture rouge de fleurs en plastique, eh bien quelque chose de la tapisserie de la Dame la Licorne va apparaître aux spectateurs, spectatrices. Et puis effectivement après on figure les animaux en chaussant des masques d'animaux, on figure les jeunes filles. Donc, en fait c'est un travail d'action chorégraphique qui font apparaître l'œuvre sur le plateau en fait, avec des moyens très simples.
Faire apparaître l'œuvre.
Marie, au musée de l'Orangerie, a retrouvé la fameuse tenture de la Dame à la Licorne, dont la dernière apparition publique date de 1946. On pourra à nouveau admirer les dessins si purs et les coloris si riches de ces tapisseries, dont l'origine demeure mystérieuse et dont on sait seulement qu'elles furent l'œuvre d'un atelier français des premières années du XVIe siècle. L'auteur des cartons, qui sont autant d'allégories des cinq sens, et la région de France dont ils pourraient provenir, sont encore inconnus. Ceux qui ont essayé de percer le mystère de cette Dame à la Licorne peuvent simplement affirmer qu'elle est le chef-d'œuvre de la tapisserie française et l'un des sommets de l'art français.
Les actualités françaises en 1951 à propos de la Dame à la Licorne, vous nous l'avez évoqué, Gaël Bourges, Guillaume Delorice, le poète qui est associé à cette tapisserie, ce qui nous conduit aller au XIIIe siècle. Vous travaillez sur l'histoire de ces œuvres que vous allez utiliser pour ensuite construire un spectacle.
Oui, ça m'intéresse beaucoup de la découvrir et de la tapisserie. Je la connaissais pas plus que vous. La première fois que vous l'avez découverte, en fait, faut bien découvrir les choses. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir qu'est-ce que c'est, à quelle époque ça a été fait, quels sont les discours sur cette tapisserie à l'époque et puis jusqu'à aujourd'hui, parce qu'évidemment les connaissances des œuvres changent. Et de faire donc à la fois une histoire tout court, qui d'abord, moi, apprendre l'histoire de l'œuvre, et ensuite en faire une histoire critique, de savoir, voilà, ce qu'on pensait il y a 50 ans, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui, est-ce que la façon de voir les choses ont changé. Et en fait, je ramasse tout ça dans un texte que j'écris par ailleurs, en plus des actions chorégraphiques que j'ai décrites tout à l'heure. Et ce récit qui fait histoire, avec au pluriel, est entendu sur scène, soit performé en direct par quelqu'un, ça peut être moi, mais pas forcément, ou en voix off, et c'est plutôt moi qui enregistre une voix. Et donc il y a vraiment un entremêlement de choses à voir et de choses à entendre. Et on peut faire le choix d'écouter, de ne pas voir, de ne voir et de ne pas écouter, de faire les deux, de s'endormir, parce qu'il y a quelque chose aussi d'assez soporifique.
que j'assume
complètement. Non, mais c'est vraiment comme une histoire quand on a la chance d'avoir eu des adultes autour de nous qui racontaient des histoires petits, il y a vraiment cette idée-là aussi de pouvoir passer dans un état, je dirais, parasympathique, en parlant du système nerveux, et de pouvoir vraiment laisser libre cours à une écoute flottante, comme ça, et d'écouter des mots qui arrivent. Et j'aime beaucoup cette idée c'est pour ça que j'écoute beaucoup la radio, d'ailleurs, Xavier Mauduit, parce que je peux aussi m'endormir avec votre voix, par exemple. Si je suis très fatiguée et qu'à 9h10, j'ai encore sommeil, vous pouvez m'endormir, et c'est très bien.
Mais ça me touche particulièrement, ce que vous dites là, parce que c'est la magie de ce média, la radio, qui crée une véritable intimité. La radio accompagne, la radio peut être, vous venez de le dire, dans un lit, peut être dans la salle de bain. La radio est absolument magique parce que elle touche au vivant. Et je sens dans vos spectacles, Gaël Bourges, qu'il y a de ça. Les œuvres sont dans les musées, c'est patrimonial et bien souvent sous vitrine, avec de l'obscurité quand c'est nécessaire. Vous y ajoutez du vivant, c'est le spectacle vivant. C'est aussi ça, cette confrontation qui nous plaît beaucoup.
Oui, puis je lisais ce matin, parce que je lis des choses sur W.G. Sebald, l'auteur sur lequel je me suis appuyée pour la dernière pièce au Starlitz. Là, les mots de Muriel Pic, qui cite elle-même Ludwig Wittgenstein, que la, peut-être que c'est la mémoire qui fait le temps et pas l'inverse. Ça, donc la mémoire, c'est du flux de temps en fait. Et qu'est-ce qui est d'autre que la danse, que du flux de temps qu'on incorpore, qu'on vit en direct devant des spectateurs. Et comme on travaille avec des œuvres anciennes, c'est comme si on donnait vie par nos flux au sens vraiment organique du terme, nos fluides, nos os, nos muscles, à des choses anciennes. C'est-à-dire quand on figure, quand on rentre et qu'on fait un lapin. Le lapin de la tapisserie, évidemment, on n'est pas le vrai lapin de la tapisserie qui est faux, puisqu'il est en laine et en soie, en fil de soie et de laine. Mais quelque chose de la mémoire est incorporé et suinte sur un plateau, un plancher, quoi. Oui, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
J'aime beaucoup que vous reveniez à la matérialité du spectacle, ce plancher, vous venez de le dire, ce décor qui est parfois fait de briques et de brocs, mais qui devient magique par ce moment en spectacle. Daniel Pénac avait donné les 10 droits du lecteur, on avait le droit de sauter des pages, on avait le droit de faire ça. Vous, Gaël Bourge, chorégraphe, vous dites il y a des droits du spectateur sur un spectacle de danse, on a le droit de laisser son esprit divaguer, on a peut-être le droit de piquer du nez à un moment pour se réveiller.
Je crois qu'on a le droit de tout, de toute façon, avec l'art, on vit ce qu'on a besoin de vivre au moment où ça se passe, en fait. Et moi, je sais, enfin, en tout cas, c'est aussi peut-être parce que j'ai des problèmes de sommeil, que je parle beaucoup de, de dormir, mais moi, par exemple, j'adorais les spectacles de Claude Régis, qui est donc ce metteur en scène de théâtre français qui est mort il y a quelques temps. Parce que je m'endormais très très bien en fait. Bon, déjà c'était quelqu'un qui supportait pas le bruit même de s'asseoir sur des banquettes de spectateurs. Il était souvent en salle quand on entrait dans la salle de théâtre et il engueulait copieusement le public.
Qui faisait trop de bruit.
Qui faisait trop de bruit. Moi je me suis engueulée absolument par Claude Régis. J'ai honoré en même temps. Mais c'est vrai que c'est une expérience où on pouvait vraiment, il y avait tellement d'attention de la part des acteurs, enfin c'était très sombre aussi souvent ces spectacles, que je m'endormais mais de façon vraiment royale. Et je ne dis pas qu'il me reste rien du spectacle. Je sais pas ce qui m'en reste, mais il y a quelque chose effectivement de comme une mémoire comme ça qui vient enfler mon imaginaire, une mémoire en plus en fait. C'est ça, je trouve que c'est toujours mieux d'en avoir en plus qu'en moins.
Ah mais complètement d'accord, ce qui reste des choses, et c'est tellement difficile, et notamment quand on pense au passé, c'est ça aussi la limite de l'histoire, c'est ressentir les choses du passé, et par le spectacle, évidemment c'est pas du tout de la reconstitution, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est associer une émotion corporelle, celle du danseur, de la danseuse, mais dans le public aussi, corporelle, associée à quelque chose d'ancien. Ça c'est très fort.
Oui, parce que je pense qu'il y a, enfin, c'est pas que je pense, c'est sûr, il y a une empathie des spectateurs, spectatrices avec les gens sur le plateau. Même si le spectacle travaille à l'opposé de l'empathie. Je pense par exemple au chorégraphe américain Merce Cunningham, qui lui n'aimait pas du tout ce rapport empathique entre les danseurs et les spectateurs. Donc il travaillait absolument à l'inverse de ça. Mais quand même, je pense que s'il y a quelque chose encore qui pour moi est très opérant dans le fait de se rassembler dans une salle plutôt noire. Alors évidemment il y a le cinéma, mais les gens ne sont pas là pour de vrai. Mais quand les gens sont pour de vrai sur scène, que ce soit un concert de musique ou de théâtre ou danse, c'est quand même une expérience assez bizarre. Enfin, on a inventé ça il y a très 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 longtemps, hein, je pense. C'est quand même étrange d'avoir eu l'idée de faire ça, quand même.
Oui, mais c'est vrai, c'est étrange et c'est surtout irremplaçable. Et historien, historienne de l'univers des spectacles du théâtre le savent très bien. Travailler sur les archives empêche parfois, et c'est la frustration, de ressentir l'émotion du moment. Ça, on ne l'a jamais. Mais j'ai envie de dire, Gaël Bourge, un peu pareil pour vous, d'un spectacle à l'autre. Je veux dire, d'une représentation même à l'autre, c'est pas la même chose.
Non, jamais. Et puis, on n'est pas toujours au maximum de nos capacités. Par exemple, là, on jouait à la Maison de la Culture d'Amiens deux soirs, et le deuxième soir, en tout cas, moi, j'étais pas très satisfaite de ma... C'est étonnant parce qu'on peut pas vraiment décider comment on a beau se mettre en condition, etc. Quelquefois, c'est rien, c'est... Normalement, on a de la fumée à un moment donné. La machine à fumer n'a pas marché. Enfin, elle a marché. On l'a tous entendu. Allez, on a entendu. Pas de fumée. Eh ben ça, ça paraît bête, mais bon, là, on était tous allongés, on doit faire la bataille d'Austerlitz. Le texte du récit parle d'Austerlitz, pas de fumée. Eh ben on a roulé comme on doit rouler, mais on a roulé sans fumer. Je pense que ça nous a beaucoup perturbés.
C'est perturbant parce que lors de la bataille d'Austerlitz en 1805, effectivement, le brouillard permettait aux troupes de monter sur le plateau de Pratzen. Alors sans fumer, c'était en kikine.
Absolument. Et voyez, voilà, c'est là qu'on fait de l'histoire avec, à notre façon, c'est que voilà, on dit le brouillard de la bataille d'Austerlitz que le texte narre en voix off. Et on diffuse normalement de la fumée, enfin sur scène, sauf que la fumée n'arrive pas. Heureusement que le texte en parle et que du coup on parle du brouillard et du soleil d'Austerlitz, mais c'est vrai qu'il y a une émotion du performeur performeuse qui est en train de faire son action chorégraphique et il y a quelque chose qui est raté et du coup il y a comme une espèce de sentiment déceptif qu'on doit accueillir dans le corps.
Oui, c'est compliqué parce que ce spectacle Austerlitz, déjà, faut le rappeler, on parle de la bataille d'Austerlitz, pour les auditeurs, les auditrices, qui est pas d'erreur, hein, c'est pas une reconstitution de la bataille d'Austerlitz, des débuts jusqu'à la victoire de Napoléon.
Non, d'ailleurs, c'est le livre aussi, en fait, le spectacle emprunte son titre au livre d'un auteur allemand que j'aime beaucoup, qui s'appelle donc W.G. Sebald, qui ne traite pas lui non plus de la bataille d'Austerlitz, mais dont le personnage principal s'appelle Jacques Austerlitz. Mais Jacques Austerlitz, effectivement, a un prof d'histoire qui lui parle de la bataille d'Austerlitz, et c'est un moment important du livre.
W.G. Sebald, on dit ses initiales, il ne l'aimait pas, son prénom. Alors on va les laisser en initiales, vous l'aimez beaucoup, il est là.
Dans la seconde moitié des années 60, pour des raisons tenant en partie à mes recherches, et en partie à des motivations que moi-même je ne saisis pas très bien, je me suis rendu à plusieurs reprises d'Angleterre en Belgique, parfois pour un jour ou deux seulement, parfois pour plusieurs semaines. Au cours de l'une de ces excursions belges, qui toujours me donnait l'impression de voyager très loin en terre étrangère, je me retrouvais, par un jour radieux de l'été commençant, dans une ville qui jusqu'alors ne m'était connue que de nom, Anvers. Dès l'arrivée, lorsque le train franchit à faible allure le viaduc flanqué des deux côtés de bizarres tourelles pointues pour s'immobiliser sous la sombre verrière de la gare, je fus saisi par un sentiment de malaise qui persista tout le temps que dura mon séjour en Belgique.
Olivier Martineau qui lisait cet extrait d'Austerlitz de Sebald. Dites-nous, ça parle de quoi Austerlitz? Alors si c'est pas la bataille d'Austerlitz, il y a ce personnage qui s'appelle Austerlitz. C'est quoi le procédé du livre?
C'est un procédé de mémoire qui remonte à la surface de la conscience de quelqu'un qui s'appelle donc Jacques Austerlitz. Et c'est un procédé d'enchâssement. Je dirais que l'écriture de Sebald est assez connue pour ça. C'est-à-dire que il y a des récits qui s'enchassent les uns dans les autres. Donc ça, c'est très beau. Parce que le narrateur raconte l'histoire de quelqu'un qui lui-même raconte une histoire. Et donc, il y a vraiment... Austerlitz me disait que Vera lui avait dit, que le cordonnier lui avait dit. Donc, il y a vraiment comme ça une écriture en espalier. Et en fait, c'est pas tant que de faire l'histoire, justement, de son passé, parce que Jacques Austerlitz ne connaît pas son passé, justement, que d'être, je dirais, littéralement attaqué par des blocs qui remontent dont on ne comprend rien. Et ça, c'est vraiment l'histoire, effectivement, comme je citais Muriel Pic qui cite Wittgenstein, que c'est la mémoire qui fait le temps et pas l'inverse. Et la mémoire peut attaquer parce que quand la mémoire est traumatique et qu'elle est trouble, on ne comprend pas ce qui arrive. Et Jacques Austerlitz en tombe malade, d'ailleurs, hein, de ce passé qu'il ne comprend pas. Et donc, en fait, on apprend peu à peu, grâce à la voix du narrateur, l'histoire de Jacques Austerlitz, qui a déjà, qui a à la fin du roman une cinquantaine d'années, en fait, et qui finit par découvrir ce qui s'est passé pour lui.
Gaëlle Bourges, vous reprenez ce procédé dans votre spectacle Austerlitz.
Mon grand-père paternel avait choisi de venir vivre en Allemagne après la guerre, malgré sa longue captivité en Basse-Silésie, qui était allemande en 1940. C'était Joffre, pour le Nouvel An, on organisait des soirées déguisées. À l'époque, Berlin était un champ de ruines. Mes grands-parents étaient allés voir une pièce de Bertolt Brecht à Berlin-Est, parce que c'est là que Brecht était revenu travailler après-guerre. Quand j'avais demandé à mon grand-père comment ils avaient pu franchir le mur qui séparait l'ouest de l'est de la ville en pleine guerre froide pour aller au théâtre, il m'avait répondu « Ah, mais c'était simple pour nous ». J'avais compris qu'il voulait dire « nous, le camp des vainqueurs » et qu'il se comptait dedans. Il était fier de participer à la reconstruction de la respectabilité de l'Allemagne après le génocide des Juifs, des Tziganes, des homosexuels et de toutes les personnes perçues comme des parias par le régime du Troisième Reich.
Austerlitz, Gaëlle Bourges, il y a de l'enquête ici, de l'enquête familiale, liée évidemment à l'histoire, parce que resituer les gens dans le moment, c'est ce qui vous a conduit, mais c'est Austerlitz et c'est pas seulement ça, c'est ça qui est absolument fascinant, c'est que nous-mêmes, on se projette dans le moment d'émotion qui est le moment de danse devant nous, et c'est toujours sidérant, enfin, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est du spectacle vivant, et puis il y a cette évocation de votre grand-père. Pourquoi surgit-il pour vous dans ce spectacle?
Bah déjà, c'est lié au livre de Sebald, hein, puisque Sebald est allemand, était allemand, il est mort en 2001. Et ce qui, en tout cas, avant de faire de l'histoire, enfin moi j'en fais pas d'ailleurs au sens historien du terme, mais on est dans l'histoire de nos parents, grands-parents. Et je trouvais très étrange, enfant, d'aller en Allemagne régulièrement. On passait beaucoup de Noël là-bas. Et comme je sais plus comment, j'ai su, mais très rapidement, dans mon enfance, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose de grave. La Seconde Guerre mondiale, le génocide des Juifs. Avant même d'avoir cours là-dessus plus tard, je sais même plus à quel moment on fait ça, d'ailleurs, au collège, au lycée. Enfin, je me souviens.
Collège
déjà. Ça, ouais. Et puis, vraiment, au lycée, le prof d'histoire nous avait montré Nuit et brouillard en seconde. Mais même avant, parce que je me souviens, j'étais encore à l'école primaire, je trouvais étrange d'aller en Allemagne et j'étais gênée. Aussi parce que ma grand-mère, qui vivait en Allemagne, disait les sales boches. Enfin, il y avait un racisme envers le peuple allemand, alors même qu'il vivait là-bas. Et puis, on était toujours dans des cités alors militaires, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, l'immeuble à Berlin dont je parle dans Austerlitz, c'était vraiment une cité militaire, la cité Joffre à Berlin. Donc, j'ai la photo d'ailleurs sous les yeux.
Vous l'avez apportée aujourd'hui.
Voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment des immeubles de la reconstruction. Donc, ça me faisait un effet aussi assez particulier de voir ces immeubles des années 50. Enfin, moi, je savais pas que c'était des années 50, mais toujours les mêmes. En plus, on changeait de ville. On n'était pas toujours dans les mêmes villes à Noël et c'était toujours les mêmes immeubles. Donc, je trouvais ça étrange de voir les mêmes grands-parents dans d'autres immeubles avec la même architecture. Et j'arrivais pas à comprendre, en fait. Mon père avait donc vécu en Allemagne. Il avait été au lycée allemand à Berlin. Enfin, au lycée français, pardon, à Berlin. Donc, il y avait tout ce rapport à l'Allemagne. Mon grand-père était très germanophile. Il lisait du Goethe en allemand au petit déjeuner. Je comprenais pas un traître mot, d'ailleurs. Et donc, j'étais vraiment gênée. Et donc, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il avait fichu en Allemagne après la guerre. Et j'étais encore plus surprise d'apprendre qu'il avait été en captivité, donc prisonnier de guerre en Allemagne, en Silésie. Je me disais, c'est quand même étrange de passer 5 ans en captivité et de rentrer chez lui en 1945 et de repartir en 47. Ça, vraiment. Donc, j'ai découvert beaucoup plus tard le pourquoi. Et c'est évidemment un secret de famille. Enfin, comme je dis évidemment, parce que souvent, quand on est petit, ne parlent pas de quelque chose, c'est qu'il y a un problème, en général. Et voilà, quelque chose de pas très heureux. Et donc ça m'a beaucoup marqué parce que moi donc j'ai développé tout un imaginaire avec l'Allemagne tout en étant gênée d'avoir un imaginaire avec l'Allemagne et je dirais que vraiment évidemment après j'ai eu cours sur la Seconde Guerre mondiale et puis j'ai fréquenté l'Allemagne autrement que par mes grands-parents et les Noëls là-bas mais ça a été vraiment important pour moi jusqu'au choc en seconde justement avec un professeur d'histoire je sais que les invités en parlent souvent ici la mémoire très vive de profs d'histoire qui ont marqué pour toujours nos enfants ou adolescents et c'est mon cas aussi donc c'était Michel Fragonard qui n'est plus de ce monde malheureusement qui sans crier gare en tout cas dans mon souvenir nous avait projeté en classe Nuit et brouillard d'Alain Resnais.
C'était où?
C'était au lycée La Canale, à Sceaux. Donc, choc total. D'ailleurs, je ne veux toujours pas le revoir, puisque j'ai gardé cette chose très vive. Mais donc, du coup, voilà, il y a quelque chose qui s'est compacté dans ma conscience entre ces Noël en Allemagne, la captivité de mon grand-père, nuit et brouillard, avec cette mauvaise conscience totale que j'ai, qui est apaisée par ces balles pour moi. Même si lui, il a vécu avec cette mauvaise conscience jusqu'à sa mort. Mais c'est comme si je faisais partie, voilà, des personnes non juives qui portent toujours cette tragédie qui fait qu'on peut, enfin, qu'on peut pas être pleinement heureux, en fait, enfin, comme toutes les tragédies d'ailleurs, hein, la colonisation, etc. Et effectivement, pour moi, il y a que l'art qui peut m'en consoler, même s'il n'y a pas de consolation en vrai. Mais ces balles me consolent parce que lui, il travaille que là-dessus, en fait, que sur sa mauvaise conscience d'avoir été un Allemand né en 1944. Dans une Allemagne tout juste, même pas sortie du nazisme, et de pas pouvoir vivre là-bas. Lui, il a émigré en Grande-Bretagne. Il ne supportait pas ses prénoms, comme vous l'avez dit, parce qu'il trouvait que c'était vraiment des prénoms typiquement nazis. Donc, il a mis des initiales et se faisait appeler Max, pour vous dire à quel point ça a bouleversé son identité. Et il a vécu vraiment sous la planète Saturne, quoi, qui était sa planète de naissance, puisqu'il était assez intéressé par les signes du zodiaque, mais dans une mélancolie infini, en fait.
Et se sentir concerné par ce que vous évoquez, ces génocides, et quels qu'ils soient, hein, qu'il s'agisse de ce qui est lié à l'esclavage, de ce qui est lié à la Shoah, c'est en cela qu'il s'agit de crimes universels. Et ça concerne tout le monde, c'est universel, avec ce secret de famille que vous évoquez, Gaël Bourges. Vous l'avez connu à quel moment ? Déjà, qu'il y avait un secret, et puis surtout, quel était ce secret ? C'est beaucoup plus tard ?
Le secret, je l'ai su vraiment très très tard. C'est mon grand-père l'a livré à un de mes frères déjà, pas très longtemps avant sa mort. Donc c'était déjà dans les années presque 2000. Hein, donc et puis mon grand-père l'a dit à un de mes frères, mais pas à moi. Et en fait, moi, c'est ma grande-tante qui me l'a dit, mais j'avais déjà presque, enfin c'était en 2000, je sais pas, 2010, enfin c'était il y a 15 ans, une quinzaine d'années en fait. Ma grand-tante est morte il y a très peu de temps d'ailleurs. C'était la petite sœur de mon grand-père, et elle est, voilà, c'est la dernière personne de la génération de la guerre, donc c'est aussi une mémoire qui s'en va en fait. Donc c'était le secret est tout simple, et il est très courant dans les familles pendant la guerre. Mon grand-père a eu un enfant avec une personne quand il était en captivité en Silésie. Et en fait, il a le village où il avait été. Donc lui, il a été envoyé pour travailler dans une ferme. Et le village était à moins d'une centaine de kilomètres de Berlin. Je pense que c'est pour ça qu'il est parti à Berlin. Et ce qui est très bouleversant, c'est qu'il a, certainement, enfin, ma grand-tante, donc sa petite sœur, m'a dit qu'il avait voulu revoir la mère à l'enfant quand il habitait à Berlin. Il est revenu à Berlin avec sa femme légitime et mon père. Et puis il a eu un deuxième fils. Et il a pris sa voiture et il a, à 10 kilomètres, il a fait demi-tour. Il a jamais revu cette femme et cet enfant. Et moi, j'aimerais beaucoup rencontrer cet oncle s'il est encore vivant, parce que c'est un, donc il est c'était donc une polonaise, donc j'ai un oncle franco-polonais en fait, quelque part. Et mon père, qui n'écoute pas cette émission, je pense,
il faudrait
ne sait pas qu'il a un demi-frère polonais. Mais je pense que toute ça, voilà, que je pense ce serait chouette qu'il le sache un jour, parce que il comprendrait pourquoi il a passé autant de temps en Allemagne aussi. Et ma grand-mère savait, par contre.
C'est très important ce que vous dites là, savoir, mais simplement pour comprendre sa propre existence, connaître le passé, pour comprendre son existence. Je regarde la photo que vous avez apportée, Gaël Bourges. Effectivement, elle ne dit rien en soi. Cette photo, elle représente quoi ? C'est un immeuble ?
Donc c'est l'immeuble où mes grands-parents ont vécu justement à partir de 1947. Donc le retour en Allemagne pour mon grand-père à Berlin, pas très loin du village de Silésie. Et donc c'est une photo que mon oncle, donc le petit frère de mon père, a faite, parce que mon oncle a fait beaucoup de photographies en noir et blanc, donc en argentique. Et c'est vrai que comme beaucoup de photos de maison, ou d'architecture, c'est des photos, enfin c'est une photo silencieuse, mais comme les photos en général. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est important de préciser que dans l'écriture, dans les livres de Sebald, le texte est constellé de petites photographies en noir et blanc.
Et dans votre spectacle aussi, Austerlitz.
Absolument. Donc cette photo, par exemple, est projetée en, sous forme de diapositive. Et donc c'est un immeuble d'une cité militaire qui s'appelle la cité Joffre, qui existe toujours d'ailleurs, qui montre donc un immeuble des années 50, carré, avec des fenêtres carrées. Il n'y a pas une âme qui vive sur la photographie. C'est plutôt en plein jour. Et c'est étrange aussi que mon oncle soit retourné photographier l'immeuble. Donc là, la photo date de 1977. Je crois que vous avez passé une archive de 1977 de Daniel Arras.
Voilà. Oui.
Donc voilà, on retombe sur nos pieds. C'est rigolo, les concordances de dates comme ça. Et j'aime beaucoup aussi, il y a la légende écrite par la main de mon oncle, je pense, à l'arrière. Mon oncle qui est mort aussi aujourd'hui. Berlin, mai 1977. Et il a ajouté au crayon à papier. Donc ça, c'est plutôt au feutre noir et au crayon à papier. Il a mis famille Bourges, donc c'est mon nom de famille. Hein. Deuxième étage à droite, cité Joffre. Donc j'aime bien le deuxième étage à droite parce que lui évidemment a vécu là-bas. Donc et moi je savais pas en fait. Je suis tombée sur cette photo dans un classeur chez mes parents et j'ai demandé à mon père ce que c'était. Il m'a dit mais ah, bien sûr c'est l'immeuble. Et d'ailleurs dans l'extrait que vous avez passé, il y a une erreur historique majeure.
Dites.
qu'on a modifié depuis. Mais comme là, voilà, vous avez la première version du spectacle qui date de novembre là 2023. Justement, le père d'une des camarades sur scène m'a dit après le spectacle, et ça j'adore parce que justement je ne suis pas historienne et j'ai je fais des erreurs historiques graves que je corrige évidemment dès que je peux. Il m'a dit à la fin du spectacle, donc c'est le père d'Alice Roland, et il m'a dit mais Gaëlle, là, ce dont tu parles, Berlin, ton grand-père qui va voir une pièce de Bertolt Brecht à Berlin-Est et qui passe le mur, il n'y avait pas de mur.
T'es 61, j'ai vu.
Voilà, donc ça, là, je pense que c'est plutôt dans les années, début des années 50. Il me dit, mais en fait, c'est peut-être même 56, parce que je crois que Mercoura, c'était 56. Il dit, il n'y avait pas le mur, en fait. Donc mon imaginaire a inventé un mur, et donc je me souvenais plus que le mur avait été construit en 1961. C'est comme si pour moi, dans mon imaginaire, il y avait toujours eu. Mais c'est grave de dire ça, parce que c'est un fait absolument faux. Il n'y a pas toujours eu un mur à Berlin.
Ah oui.
Donc j'ai réenregistré le texte depuis. Pour dire qu'en fait, il n'y avait pas de mur. Voilà. Donc, c'est intéressant, voilà, de comment la mémoire, justement, est autre chose que juste de l'histoire, c'est du temps d'abord. Et qu'on peut se tromper dans les faits. Et le travail de l'historien, c'est de rétablir les faits, de pouvoir les constituer, de les prouver et de les graver dans le marbre. Parce que justement, des esprits flottants comme le mien racontent n'importe quoi. Et c'est extrêmement grave de raconter n'importe quoi.
Oui, mais l'histoire, c'est vrai que c'est une science. C'est une science humaine, d'accord, avec ses fragilités, mais une science. Et sur une photographie telle que vous nous l'avez apportée, Gaëlle Bourges, cet immeuble qui en soi ne dirait rien, sinon qu'il y a cette légende au dos. Et rappelons-le sans cesse, dès qu'on trouve des documents ou demandons aux grands-parents d'écrire au dos des photos qui est sur la photo, parce que après c'est terminé, on ne sait plus. Avec toute l'histoire que vous nous avez racontée, cet immeuble prend un sens démesuré, parce qu'on voit cette existence entière, celle de votre grand-père, celle de son fils qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas vu. Juste parce que je pense que c'est une question que tout le monde a envie de vous poser, à part la conscience qu'il existe, cet oncle que vous avez, franco-polonais, il y a possibilité de le retrouver ? Il y a un nom, il y a quelque chose ?
Bah non, malheureusement, non. J'en ai parlé avec ma grand-tante, mais elle savait pas, en fait. Et puis, il aurait fallu que je demande à ma grand-mère, mais elle est morte depuis longtemps aussi. Donc j'aurais dû demander à mon grand-père, mais comme il l'a dit quelques mois avant sa mort, que à l'un de mes frères, c'est... J'aurais voulu, mais lui, bien sûr, il connaît le nom de cette femme, mais peut-être elle s'est mariée depuis,
eh oui.
Certainement, et donc du coup, elle apporte peut-être, enfin voilà, donc c'est compliqué, mais pas impossible, mais compliqué. Il faudrait vraiment que je lance un détective privé sur les traces
et peut-être,
de l'oncle franco-polonais.
C'est la magie, hein, toujours, de ces existences qui se croisent avec le rappel, parlons aux anciens qui nous racontent, parce que ça nous construit pour le présent. Gaëlle Bourges, je vous propose de rester en Allemagne, côté... Allemagne autre, mais tel que cela peut être évoqué dans votre spectacle, Austerlitz.
Bien sûr, plus jamais je ne vivrai là-bas. Moi, je veux être libre. Moi, je trouve que le gouvernement devrait collaborer avec les pays occidentaux, comme les Polonais et les Hongrois. Comme ça, les Allemands de l'Est pourraient avoir de l'argent et voyager. Parce que moi, je connais beaucoup de gens là-bas qui veulent rester et qui veulent changer la société. Honecker, c'est un vieux type malade. C'est un menteur. En fait, ce gouvernement commence à faire comme les autres, les nazis. Ils se disent communistes, mais pour moi, ce ne sont pas des communistes. Moi, je suis vraiment communiste. La Terre, en fait, c'est une boule. On est tous une famille. Et il faut qu'on se comporte comme une famille. Et je crois aussi en Dieu.
L'incroyable Nina Hagen qui s'exprimait en 1989. Ah bah oui, là, cet univers. Alors Nina Hagen, personnage incroyable. Hein. Et vous, dans votre spectacle, Gaëlle Bourges, il y a l'évocation de ce qui se passe en Allemagne de l'Est. Et notamment, on l'associe pas souvent à la RDA, mais une vraie ferveur créatrice, particulièrement pour la danse.
Ah oui, vous voulez dire en RDA?
En RDA, ouais.
Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'adore Nina Hagen aussi. Ça a été un moment important dans mon adolescence. Bah surtout aussi, oui, puis le mouvement punk aussi, parce qu'on en parle dans le spectacle qui a beaucoup marqué, moi, mon imaginaire, mais surtout, je dirais, celui de... Bah, je parlais d'Alice Roland tout à l'heure, mais effectivement, elle a, parce qu'on projette aussi l'image d'un documentaire allemand de jeunes punks allemands sur une plage en RDA justement. Et c'est vrai que cette, oui, bien sûr, les totalitarismes font sauter des, enfin, je veux dire, puisqu'il y a appui avec un couvercle tellement lourd sur la tête des gens, les gens font sauter les verrous. Comme ils peuvent, en fait, avec la musique, ou l'art en général, effectivement. Donc, même si on n'est pas contemporain de cette époque-là, enfin, certains d'entre nous étions à peine nés ou d'autres même pas, mais c'est des forces vives extrêmement puissantes d'en découdre, en fait, de détruire les totalitarismes, les empêchements à être libres. Puis je pense que voilà, c'est l'Allemagne, d'après-guerre, enfin, on voit aussi des films de Rainer Fassbinder. Je veux dire, je pense que ça a été insupportable d'être un jeune Allemand après-guerre, en fait. Donc, c'est comment tout détruire. C'est une vraie question, parce que oui. est-ce qu'il faut détruire toujours ?
Mais non, est-ce qu'il faut détruire toujours ? C'est une vraie question. Est-ce que dans cette destruction, on participe pas à une construction qui a lieu, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans ce spectacle Austerlitz, parce que en toile de fond on a une histoire de la danse, de la chorégraphie, on le voit en toile de fond, et ce mouvement punk allemand dans ces années-là, bah c'est un moment de cette histoire.
Oui, parce que justement l'histoire, c'est pas seulement l'histoire des académies, en fait, ou de la belle danse classique par exemple, c'est toutes les danses, c'est tous les corps qui dansent, et donc les corps qui se jettent les uns sur les autres aussi dans un pogo par exemple. Et en effet, comme nous on s'est rencontrés dans le milieu de la danse, on n'est pas tous danseurs danseuses sur le plateau. Il y a aussi Stéphane Montero qui est musicien, mais qui a voulu être danseur. Lui, il a complètement adoré Fame, la série Fame, quand il était adolescent. Et c'est effectivement, toutes les danses ont des histoires. Et de toute façon, nos corps ont des histoires. Donc le fait de danser un slow dans une boom dans les années 80, quand on a 12 ans, ou de fantasmer sur les pogos, sur le pogo des jeunes punks allemands, ça fait partie des histoires des danses, en fait. Et effectivement, on fait ces histoires. C'est pas seulement là, peut-être la particularité de ce spectacle, c'est qu'on fait pas seulement l'histoire avec l'histoire, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, ou l'histoire de la colonisation en Algérie, par exemple, c'est aussi l'histoire des danses qui traversent aussi, qui ont trait au champ politique, en fait. La danse postmoderne des années 60 aux États-Unis, 60-70, c'est aussi une danse qui naît avec le mouvement hippie, mais aussi dans un moment ultra-capitaliste des États-Unis, où il y a du travail pour tout le monde, et en même temps il y a la guerre du Vietnam. Et donc c'est des gens qui veulent en finir avec le spectacle académique, avec les boîtes noires, avec les costumes, avec les lumières, et qui disent fuck la lumière, je dis ça vraiment exprès, hein, fuck la lumière, fuck les costumes, vive le mouvement piéton, n'importe qui peut danser, les non-danseurs sont tout aussi intéressants à regarder qu'un danseur virtuose, etc., etc. Donc en fait, les histoires des corps ont trait à l'histoire tout court et aux histoires politiques, en fait. Donc le punk est vraiment lié avec l'Allemagne de l'Est, la postmodernité américaine avec Steve Paxton, Anna Alprin, Yvonne Rainer a trait à la guerre du Vietnam et avec le capitalisme aussi, malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc, je pense que c'est hyper important de faire cette histoire-là, de faire sortir les traces, les détails de ces moments-là. C'est pas juste il y a des super danseurs, chorégraphes qui font de la danse contact. C'est intéressant. Pourquoi la danse contact, qui est ce travail vraiment de flux entre deux personnes, ou dans un continuum, où même les accidents n'arrêtent pas la chose, que ça naît en même temps que l'espèce d'explosion totale du capitalisme d'après-guerre. Et bien sûr que Steve Paxton était anticapitaliste, mais quand même, c'est intéressant d'aller dans les détails. L'histoire fait ça.
De relier tout cela. D'ailleurs, Gaëlle Bourges, vous avez prononcé un nom qui nous oblige à interrompre quelques secondes l'émission. Vous avez osé dire, mais merci vivement à vous, vous avez dit Fame.
Sometimes I wonder where I've been, who I am.
Cet établissement n'a pas d'école que le nom. Vous n'y serez pas mieux traité parce que vous avez du talent. Au contraire, vous y travaillerez deux fois plus. Je me moque que vous dansiez bien ou que vous ayez beaucoup d'esprit et des arcs-en-ciel en guise de vêtements. Mais si vous ne consacrez pas le temps qu'il faut à vos études scolaires et académiques, alors dehors.
Dans le cours de l'histoire sur France Culture, et ça se déhanche dans le cours de l'histoire. Je vois Thomas Bou qui réalise cette émission, Jean-Guy Lamège à la technique, et vous-même, Gaëlle Bourges. C'est un vrai plaisir. Pour rappeler, on parle de spectacles vivants, de tous vos spectacles, notamment d'Austerlitz. C'est évoquer des moments difficiles de l'histoire, mais cette histoire-là, c'est une histoire qui est porteuse. Que ce soit le mouvement punk, que ce soit Fame, que ce soit tout ça, ou que ce soit même Steve Paxton, on a des grands noms de cette histoire de la danse et de la chorégraphie. C'est très vivant, c'est très incarné, et ça fait du bien d'avoir cette construction pour voix écrite, mais ce n'est pas simple aussi. Vous avez fait des études d'art. Alors, dans la narration d'une histoire comme ça, ça nécessite des ellipses, ça nécessite des évocations. La forme d'Austerlitz, ces moments de mémoire que l'on peut évoquer, c'était bien adapté pour ça.
Oui, c'est pour ça que je me suis appuyée sur le livre de Sebald, parce qu'il fait ça bien mieux que moi. Donc c'était pratique en fait d'essayer de reproduire cette pensée en enchâssement. Juste pour revenir sur Fame, en anglais, c'est intéressant le couplet, parce qu'on est, c'est une émission d'histoire, et en fait le refrain fait remember, remember, donc souviens-toi, 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 souviens-toi de mon nombre, fame, c'est la gloire, etc. Mais c'est intéressant, je connais cette chanson depuis très longtemps, comme vous, Xavier Maudit.
Ah, bah, oui.
Et puis comme les gens derrière cette vitre, qui ont à peu près, on peut dire quand même qu'on a à peu près le même âge, plus ou moins. Là, on est complètement démasqué. Qui connaît Fame?
La trentaine, quoi.
C'est ça, on a à peu près une de la trentaine. Mais ça me frappe là ce matin avec vous qu'effectivement c'est le refrain d'I Remember. C'est rigolo, j'avais pas du
c'est
tout.
C'est ça. Ce souvenir.
Je me souvenais plus que c'était souviens-toi le refrain.
Ce souvenir de ce qui disparaît et parfois ce qui disparaît de manière tragique.
L'entreprise a dû se résoudre à un dépôt de bilan en fonction de difficultés de trésorerie amenées par des conditions de marché. N'est-ce pas, lesquelles conditions de marché sont elles-mêmes conséquentes d'une politique française du textile, n'est-ce pas, lequel textile est soumis à toutes les concurrences loyales et déloyales sans possibilité de recours ou en tout cas de réciprocité.
Voilà, vous avez écouté les explications de la direction de Maud Bossu. Ce sont les importations qui sont très directement à l'origine de ce dépôt de bilan. Reste à savoir quand même, Robert Delsalle, s'il suffit cet argument à expliquer les 4000 licenciements économiques dans le textile régional.
Pour nous, industriels du textile, si vous voulez, ça ressemble un petit peu à l'opéra, si vous voulez, où on voit les chœurs qui chantent en disant « marchons, marchons », si vous voulez, il se fait jamais rien. Que ce soit le gouvernement actuel ou le précédent gouvernement, si vous voulez, ça fait des années qu'on nous promet qu'on va faire quelque chose pour le textile, on ne fait rien. Alors il faudrait bien savoir un de ces jours si on est décidé ou pas à faire quelque chose.
Le textile qui disparaît à Roubaix sont les actualités en 1981 avec cet industriel du textile qui associe le monde du textile à l'opéra. C'est la Maud Bossu qui se ferme. Aujourd'hui, ces bâtiments, évidemment classés au patrimoine, sont devenus les archives du monde du travail. Là où, Gaëlle Bourges, vous avez pu réfléchir, c'est un autre spectacle que vous avez fait. Ce spectacle-là, c'était en 2014-59. C'est oui. La fin de l'industrie textile. Pourquoi vous intéressez à ça?
Alors ça, c'était un travail de commande, mais ça m'a énormément plu que d'avoir ce travail-là à faire. C'était donc avec le Centre chorégraphique national de Roubaix, et donc avec Agnès Butet et Camille Gerbeau, mes comparses danseurs, on a travaillé justement sur le désespoir qu'on sent à Roubaix, puisque c'est vraiment on sent un faste ancien. Alors pour le coup, il y a des traces de richesse ostentatoire et une pauvreté des gens qui habitent qui est abyssale. Donc il y a vraiment et puis ces usines désaffectées en fait, des kilomètres comme ça d'usines. Et puis quand on a commencé à enquêter, notamment au sein même du Centre chorégraphique national où on répétait. Parce qu'on s'est aperçu que la plupart des gens qui travaillaient dans ce centre chorégraphique national avaient eux-mêmes travaillé, avaient fait des stages dans une industrie textile avant qu'elle ne ferme, et que leurs parents et leurs grands-parents avaient tous travaillé dans l'industrie textile. Et donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait avec ces traces justement? Donc nous on a fait une pièce dessus où l'action était vraiment de se passer de la laine et on fabriquait une structure en laine en hommage à la laine de faite à Roubaix et c'est toujours l'idée de faire pas seulement de travailler sur ce qui a été consigné par les historiens et historiennes mais de restituer. J'aime bien cette idée de ce que Sebald fait d'ailleurs dans ses livres, de restituer la mémoire des gens qui sont morts, la mémoire des ouvriers ouvrières comme dit Walter Benjamin, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai enfin compris ce qu'il disait sur le concept d'histoire, que l'histoire est surtout celle des vainqueurs et que quand est-ce qu'on fait celle des vaincus, en fait? Enfin, je pense qu'il y a. Enfin, elle est faite, aujourd'hui.
Elle s'écrit sans cesse, mais.
Elle s'écrit sans cesse,
toujours.
Mais peut-être que justement, à l'endroit où je suis, moi, qui est l'endroit des spectacles, je ne fais que ça, en fait. C'est de donner corps à des mémoires de gens qui disparaissent. C'est-à-dire que le monde se dépeuple, en fait, des traces des gens. Donc, puisque j'ai un corps et qu'on est tous. On est des corps de rendre hommage à des paroles. Voilà, on a repris des paroles d'ouvriers, etc. qu'on a incorporé nous sur scène. C'est leur rendre hommage en fait, c'est de restituer quelque chose qui ne fait que disparaître en fait. C'est comme de rattraper la pelote de laine qui. Bon, c'est notre sort à tous et toutes, hein. Mais c'est quand même elle se dévide, mais moi je la réenroule en fait. Je fais que ça, comme une espèce de voilà. Une parque.
Voilà, c'est ça, persévérer pour restituer ce qui disparaît. Et par exemple, il s'agit de modèles féminins.
Je vous donne rendez-vous au chevet d'une ravissante jeune femme allongée nue sur un divan. Là, nous sommes face à face avec l'un des plus importants tableaux de tous les temps. C'est l'Olympia de Manet. Peu de tableaux auront soulevé autant de critiques et auront provoqué tant d'admiration. Or, ce tableau a une histoire, une émouvante et triste histoire. Elle m'a été contée naguère par Claude Monet. Or, il se trouve que j'ai entre les mains un document exceptionnel à cet égard. Peinte en 1865, l'Olympia fut repoussée par le jury de 1866, ainsi que toutes les autres toiles de Manet. C'était la guerre déclarée, avec parfois des armistices, mais n'empêche qu'en 1877, le jury officiel refuse encore des toiles de Manet. 6 ans plus tard, il meurt, l'Olympia lui restant pour compte. Et maintenant, nous sommes en 1889. Or, voilà qu'une idée incroyable, insensée, germe en l'esprit de Claude Monet. Faire entrer l'Olympia au Louvre, et qu'elle soit offerte à la France par un groupe d'admirateurs anonymes. Et voilà la raison pour laquelle un cartouche fixé dans le haut du cadre de l'Olympia porte ces mots « don d'une société d'amateurs et d'artistes ».
Sacha Guitry qui nous parlait de l'Olympia de Manet. Dites-moi, Gaël Bourge, pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'Olympia de Manet? C'est votre spectacle qui s'appelle « La bande à Laura ».
Pour beaucoup de raisons, mais déjà, il y en a deux essentielles. Ça m'intéresse toujours aussi de voir comment une œuvre a pu faire scandale en 1865, à tel point même que Édouard Manet était tellement déprimé que sa toile ait été refusée au Salon des Beaux-Arts officiels, qu'il a vraiment fait, d'après ce que j'ai lu, hein, une vraie dépression nerveuse. Hein. Vraiment, il s'est complètement enfermé pendant plusieurs mois. Je crois qu'il était insulté de toutes parts par la presse, la communauté d'artistes ou de visiteurs, visiteuses du salon. Est-ce que ça fait encore scandale aujourd'hui? Elle est au musée d'Orsay maintenant, puisque le 19e a migré à Orsay, mais j'ai pas l'impression que ça fasse scandale encore. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait scandale à une époque et le fait plus aujourd'hui?
C'est l'œuvre de Bourdieu, le sociologue, quand il travaille sur Manet. C'est vrai que pourquoi ces tableaux ont fait scandale? Et quand nous parlons de l'Olympia d'Édouard Manet, on oublie souvent qu'il n'y a pas que l'Olympia sur le tableau. Il y a quelqu'un d'autre.
Absolument. Et donc la deuxième raison essentielle aussi, c'est qu'il y a deux femmes sur ce tableau qui ont été complètement oubliées. Alors ça, c'est vraiment une problématique vraiment profonde. C'est que les gens qui posent sont souvent d'illustres, enfin ne sont pas retenus par l'histoire de l'art. Or, en l'occurrence là, ces deux femmes ont une identité connue déjà à l'époque de Manet et donc encore aujourd'hui. Et il y a donc Victorine Meurant qui est cette femme qui a posé nue pour Manet, qui est au premier plan allongée sur le lit, et une autre femme noire qui s'appelle, dont on connaît le prénom seulement, Laure. Puisque Manet a consigné son nom dans un carnet quand elle posait pour lui, dont on ne connaît pas le nom de famille malheureusement, pour une raison, peut-être pour la raison de l'esclavage qui a été aboli pour la deuxième fois quelques temps avant, et peut-être que son nom de famille a été avalé par la machine esclavagiste comme souvent les anciens esclaves, ou peut-être aussi pas consigné dans le registre des loyers, parce qu'on a retrouvé son prénom aussi, elle habitait 11 rue de Vintimille sous la place de Clichy. Où Victorine Meurant vivait aussi, enfin Victorine Meurant vivait à côté, donc près de la place de Clichy, Manet étant au boulevard des Batignolles, donc enfin pas très loin. Et donc elle a, ces femmes ont beaucoup posé d'ailleurs pour Manet, mais pas que. Donc c'est des modèles qu'on retrouve dans beaucoup de tableaux de peintres de la même époque. Donc je trouve ça extrêmement triste aussi que ces gens qui ont été importants parce qu'ils ont prêté leur présence, leur intelligence, leur façon de se mouvoir à des peintres, ou beaucoup hommes d'ailleurs, mais il y avait aussi des peintresses à l'époque, hein, comme Berthe Morisot, et qu'on oublie leur nom, alors que effectivement je pense que c'est vraiment des gens, enfin évidemment le talent revient aux gens qui dessinent, qui peignent, qui sculptent, mais il y a aussi la présence au monde et de ceux qui posent, donc c'est effectivement on les oublie, notamment c'est souvent les femmes qu'on oublie en l'occurrence dans les nus, parce qu'il y a beaucoup plus de nus féminins que de nus masculins. Donc voilà, la bande à Laura redonne une identité à ces femmes et raconte ce qu'on sait assez peu d'ailleurs de leur histoire.
Et puis vous, Gaël Bourge, vous donnez de l'émotion par la présence physique devant nous, des danseurs, des danseuses, liées à ces présences anciennes, restituées. Vous l'avez utilisé comme mot, c'est peut-être ça aussi, vous nous avez dit, on peut piquer du nez devant un spectacle ou en écoutant une émission de radio. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, avec cette émission dans le cours de l'histoire, personne ne s'est endormi. Merci vivement à vous.
Merci
C'était
à vous.
C'était très généreux. Merci. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi des collégiens de La Réunion ont-ils voulu honorer la mémoire de Célimène Gaudieu? Au cours de l'année scolaire 2022-2023, les élèves d'un collège situé dans le quartier de la Saline, à Saint-Paul-de-la-Réunion, ont réalisé un clip en l'honneur de Célimène Gaudieu, clip que vous pourrez regarder en consultant le lien que j'ai mentionné sur notre site. Née à Saint-Paul, le 20 avril 1807, Célimène Gaudieu était la fille d'une esclave d'origine malgache qui fut affranchie après son mariage par son époux Louis-Edmond Jans, un créole blanc. En 1839, Célimène épousa Pierre Gaudieu. Né dans un village du Périgord, il s'était engagé dans la gendarmerie coloniale, ce qui l'avait conduit jusqu'à La Réunion en 1837. Il démissionna de la gendarmerie pour devenir maréchal ferrant. Et Célimène s'occupa de l'auberge qu'ils avaient ouverte à la Saline. En juillet 1852, Pierre Gaudieu décéda durant l'épidémie de variole qui toucha l'île, laissant Célimène avec 5 enfants à charge. Bien qu'elle n'ait pas fréquenté l'école, Célimène avait appris en autodidacte à lire et à écrire, puis à versifier en créole comme en français. Quand la diligence transportant les voyageurs de Saint-Paul dans les hauts du pays s'arrêtait devant sa petite auberge, elle leur offrait des liqueurs ou un repas, puis elle prenait sa guitare, bien qu'elle ne sache pas en jouer, pour chanter les airs qui lui passaient par la tête. Son auberge devint alors la scène principale sur laquelle elle se produisit jusqu'à sa mort en 1864. Elle put ainsi tisser des liens d'amitié avec plusieurs personnalités lettrées de l'île. Parmi elles, je citerai Louis Simonin, ingénieur des mines et journaliste. Dans son voyage à l'île de la Réunion, paru en 1861, il évoque la muse des trois bassins, comme on la surnommait à Saint-Paul, en la décrivant ainsi. Célimène improvise et chante à la fois ses vers en s'accompagnant à la guitare. Elle déchire à belles dents celui qui s'attaque à elle et sa répartie est prompte, en prose comme en vers. Louis Simonin cite dans son livre les 5 vers que Célimène lui adressa pour le remercier d'un échantillon de lave volcanique dont il lui avait fait cadeau. « Je te remercie, mon cher voisin, de la roche que tu m'as envoyée. Je vais bien la conserver. On ne jette pas tous les matins d'aussi jolies pierres dans mon jardin. » Il a fallu attendre l'année 1929 pour que les autorités de l'île s'intéressent à Célimène. Une délégation se rendit alors à la Saline pour interroger les vieillards et noter les paroles et les airs de ses chansons. Mais seules quelques-unes d'entre elles sont parvenues jusqu'à nous. L'engouement pour cette héroïne de la culture réunionnaise n'a vraiment débuté que dans les dernières années du XXe siècle. En 1996, David O'Haraud et Patrick Sida, 2 musiciens dont le répertoire s'inspire de la musique traditionnelle réunionnaise et malgache, ont créé le duo Célimène. En l'an 2000, un cratère du Piton de la Fournaise, le célèbre volcan de l'île, a été baptisé cratère Célimène en souvenir de l'échantillon de lave que lui avait remis Louis Simonin. 2 ans plus tard, le collège de la Saline est devenu le collège Célimène Gaudieu et aujourd'hui, plusieurs autres lieux publics portent son nom.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Tom Umdenstock, Jeanne Delecroix, Toscane Dudèche, Jeanne Copin, Mathieu Copal et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire à retrouver, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.